bon mardi, je m'appelle Chantal Lavoie. Bienvenue à une autre édition de Aime l'été, mardi 2 août. Je vous invite à nous suivre. On s'intéresse à d'autres beaux sujets. Une expédition, dans le Golfe Saint-Laurent, fort intéressante. On va découvrir et se familiariser avec des oiseaux de proie, des tours guidés pour découvrir notre patrimoine montréalais, une ville en transformation, et Fierté Montréal déploie ses couleurs tout au long de la semaine. Voici une heure passionnante qui vous attend à Aime l'été. Eh bien, aujourd'hui, on rencontre une biologiste marine, Anne-Marie Asselin, qui se préoccupe de la conservation des espaces naturels et qui nous parle d'une expédition de recherche inclusive à la voile au cœur du Golfe Saint-Laurent avec un équipage de femmes. Nous irons faire un tour guidé de Montréal avec Architectour. Et puis, l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie nous permet en fait de découvrir et d'observer ces oiseaux de proie qu'on a soignés avant de les remettre en liberté. Un endroit à découvrir, chouette à voir. Et puis, il sera question aussi de la programmation de la Fierté Montréal. Suivez-nous au cours de la prochaine heure à Aime l'été.
Se dire je ne sais quoi que je ne saurais vraiment décrire, une première fois qui ne demande qu'à se reproduire, ce qui suivra je me meurs de le découvrir.
La pièce avait pour titre « Eau » interprétée par Sandy Duperval. Originaire de Montréal, Sandy Duperval est à la fois chanteuse, musicienne, DJ et productrice. Le grand public l'a connue à Star Academy il y a plus de 15 ans. Elle sortait il y a tout juste un an son EP « Ad Vitam » et le premier extrait « Eau ». Soulignons que nous allons accorder une place particulière aux chansons et artistes LGBTQ+, au cours de la Semaine de la Fierté, qui va culminer bien sûr avec la présentation du défilé de la Fierté ce dimanche. Et Sandy Duperval, qui a été le porte-parole en 2020, mais qui l'est encore en 2022, bonjour!
Bonjour, comment ça va?
Ah, ben très bien, Sandy. Vous êtes très polyvalente. En fait, vous avez votre carrière musicale, mais vous avez également, vous complétez des études en gestion en plus. Vous avez fait des études en cuisine. Bref, vous êtes vraiment, c'est ça, très polyvalente.
oui, c'est de la passion culinaire et musicale. Depuis que je suis enfant, ma grand-mère était chef, donc j'ai poursuivi un peu la trajectoire que j'ai commencée quand j'étais enfant.
Et puis là, ben, comme porte-parole, effectivement, vous allez nous parler de la programmation. Évidemment, une programmation forte, intéressante. Et puis, le directeur de la programmation, j'espère que je vais bien dire son nom, Chris Nga-Bonziza, c'est ça?
Oui, exactement.
Enfin.
L'équipe, Chris et toute l'équipe de Fierté Montréal ont fait un travail magistral parce que on a vraiment une diversité. On a les personnes qui font partie des communautés de LGBTQ+, et on a aussi nos grandes vedettes. Donc, on voulait vraiment créer des ponts, rassembler, être inclusif. Et cette année, c'est exceptionnel.
C'est ça, mais c'est une grosse édition. D'abord, c'est la 15e, hein, je pense, c'est ça?
Oui, exactement.
Et puis bon, ben, on sait qu'il y a tout un contexte. Ben, on accueillait jusqu'à aujourd'hui cette 24e conférence internationale sur le sida. Il y a quand même plus de 10 000 participants hein, qui étaient là. Alors vraiment, il y a toute une effervescence aussi. Et puis bon, c'était le coup d'envoi hier sur l'esplanade du Parc olympique.
Mais en fait, ça commence demain avec la grande Diane
Ah, c'est
Duchesne.
demain. Pourquoi je disais hier? J'avais l'impression que c'était
C'est
hier. Ah bon, non, non,
que
d'accord.
techniquement, le festival a commencé hier, mais la grande soirée d'ouverture, c'est demain sur l'esplanade du Parc olympique.
Ah, d'accord.
C'est la première fois qu'on va y être aussi, et c'est la première fois aussi depuis la pandémie qu'on se rassemble enfin sans masque. Donc, ça
Oui.
va être pas mal incroyable.
C'est ça. Mais en fait, ce qui m'a induit en erreur, c'est qu'on parlait en ouverture. Alors, comme c'était l'ouverture officielle hier, j'ai pensé que c'était le spectacle d'ouverture hier. Bon, voilà, de là mon erreur. Alors, ben oui, la grande
Oui.
Diane Dufresne qui sera là, mais qui sera pas seule non plus. Mais on se souvient qu'elle
Non.
était là en 84 avec le spectacle Magie Rose hein, au Stade olympique. Alors, c'est sûr que bon, ça va être symbolique en même temps. Mais c'est ça. Donc, ce grand spectacle demain, enfin, il va y en avoir quand même plusieurs grands spectacles, mais il y a plein d'autres choses. Alors, allons-y par ordre, en fait. Donc, c'est ça, parce que c'est très chargé. On parle quand même de 150 artistes. Il y a des spectacles gratuits. Il y a vraiment plein de choses, là. Alors, c'est ça, on va commencer donc ce concert demain. Donc, on se rencontre sur l'esplanade.
Exactement, avec Diane Dufresne, Pierre Coander, les femmes de tambour de Wendat ainsi que le Kiki Ballroom. Ensuite, à partir du 4, le jeudi, on double plaisir avec deux spectacles, mais surtout celui que tout le monde en parle depuis quelques semaines, le Drag Superstar,
C'est
qui va
ça.
être le... Oui, celui-là, on le sait déjà, arrivé tôt, ça va se remplir rapidement. C'est avec plusieurs des franchises de RuPaul Drag Race, plusieurs drag queens des franchises de Drag Superstar. Et on a aussi sur la scène du casino, le spectacle Succession. Donc, on veut vraiment aller chercher à plaire à tout le monde et on va continuer avec Imix le vendredi, qui est une grande première. C'est un spectacle de variété, différents styles, avec Dominique Fils-Aimé, Cœur de Pirate, Corneille, ainsi que le spectacle Excellence qui fait place à la relève de SLGBTQ+. Donc, sur deux scènes, dont la scène TD Canada Trust. Et il va avoir le 6. Le spectacle Majestic, mettons, on fait place aux drag kings et drag queens du Québec.
Ah oui, on
Donc,
combine les deux, bien sûr. Ben oui, c'est fort intéressant. Mais dans le cas de Drag Superstars, ben évidemment, c'est Rita Baga qui sera encore à la barre de l'événement.
oui, la grande Rita Baga qui nous offre, justement, qui a choisi toutes les drag queens qui vont faire partie du spectacle. Et on aura aussi Gisèle Lalabaye qui va être à la barre de Majestic. Que vous allez voir qui fait partie de l'édition en ce moment de Drag Superstar, Drag Canada. Et on termine en grand le 7 ou le dimanche après le défilé avec le T-Dance et la grande Pablo Vittar, ainsi que DJ Caraba, Trinx, qui sont des drag qui est un spectacle plutôt sur talons aiguilles à ne pas manquer. Donc, il se passe énormément de choses et on a aussi les journées communautaires qui vont
Oui,
avoir
ça,
lieu
c'est
dans le
important.
village.
On en a parlé un
Oui.
petit peu avec Simon Gamache hier, le directeur général de Fierté Montréal, mais c'est ça parce que les communautés, c'est ça, elles ont besoin aussi de se faire voir, de se faire reconnaître. C'est important. Et ça se passe dans le
Exactement.
village, hein, c'est ça.
Oui, ça se passe dans le village. Il se passe aussi plusieurs événements au parc Émilie-Gamelin. Donc, on invite vraiment les gens à aller voir les organismes qui sont à la disposition des communautés à l'année longue et qui font vraiment toute la différence. Donc, c'est la place à la communauté aussi d'aller chercher des ressources et parler aux gens qui sont acteurs de changement.
Exact. Parce que comme on disait hier avec Simon, évidemment, la mission, en fait, de la mission première de Fierté Montréal aussi, c'est d'arrimer les revendications du milieu avec une programmation, une semaine particulière comme on la vit présentement.
Exactement. C'est très, très important que tout le monde ait une visibilité et que les gens sachent aussi où aller chercher plus d'outils, de ressources, savoir où on en est, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a énormément dans les revendications dont mon collègue va vous parler, il y a énormément de travail à faire et on ne peut pas le faire seul. Il faut vraiment qu'on essaie de se mettre tout le monde la main à la pâte pour que les choses puissent changer.
Exactement. Donc, demain, effectivement, on va parler de ces fameuses revendications. En marge de cette conférence internationale, en fait, on a présenté aussi l'œuvre de Dave Saint-Pierre, Rapture, mais c'est tout. En fait, ça continue là quand même. C'est jusqu'au 6 août, ce spectacle quand même.
Exactement. Donc, ça continue jusqu'au 6 août. C'est 10 représentations qui ont commencé la semaine dernière et qui ont pour but, justement, de démontrer une époque qui était imparfaite, brute et sauvage et qui l'est faite d'une façon exceptionnelle dans cette danse contemporaine et qui démontre encore que, oui, on essaie de trouver toutes les façons possibles de pouvoir raconter les histoires des gens qui n'ont pas pu le faire.
Exactement. Donc, cette pièce qui rend hommage aux millions de personnes tragiquement décédées du sida à travers le monde et puis donc incarnée par une dizaine d'interprètes. Alors vraiment, c'est vraiment une œuvre à voir absolument. Donc, très intéressant. On connaît Dave Saint-Pierre, évidemment, immense chorégraphe. Chose certaine, il y a toutes sortes de volets, justement, parce qu'avec mon collègue qui me précédait avec l'émission précédente, justement, on parlait du volet littéraire également. Et puis ça, il y a plein d'aspects qui sont touchés dans ce festival.
Exactement. Je pense qu'on essaie vraiment d'incorporer le plus possible. Il y a des activités avec les familles, il y a le volet littéraire, il y a le volet communautaire. Il y a aussi, on fait un hommage très spécial aujourd'hui, dimanche, pour Robert Ouimet, qui fait partie des communautés, mais qui a été un grand acteur du disco au Québec, d'ailleurs, qui a été le premier à vraiment partir le bal ici au Québec. Et on va lui rendre hommage dimanche. Donc, on essaie d'y aller tout en art, tout en activité communautaire pour les gens qui veulent vraiment avoir plus d'informations puis avoir les détails précis. Allez sur le site fiertémtl.com. On vous invite à voir ces 150 activités, 150 artistes sur 7 jours, les 12 grands spectacles et plus de 100 activités, 200 organismes communautaires.
C'est ça. Et puis, on tend aussi la main aux Premières Nations, communauté des Premières Nations également.
Absolument. Et on sait bien que le combat ne fait que commencer. On est de tout cœur en tant qu'alliés à l'écoute pour vraiment comprendre les besoins des communautés, des Premières Nations et des communautés autochtones. Je pense que c'est important qu'on fasse de la place, mais qu'on écoute surtout. Parce qu'il n'y a que les communautés qui peuvent nous dire vraiment comment on peut les épauler dans ce combat.
Donc, on doit travailler ensemble, bien sûr. Et il y a ce grand défilé, bien sûr, ça va culminer cette Fierté Montréal avec ce grand défilé ce dimanche.
Oui, effectivement, ce dimanche, d'ailleurs, ça va être le même trajet que d'habitude. Je crois que l'année dernière, c'était simplement la marche. Maintenant, on va incorporer une marche et aussi de retour avec tous les organismes, surtout qui font la différence, comme je disais plus tôt. Et on va commencer à compter de midi pour le défilé et on va continuer. On invite vraiment les gens à... On a l'impression qu'on vient voir les gens des communautés, mais on demande aux gens de venir en tant qu'alliés, nous épauler, on célèbre et on aura une minute de silence à compter de 14h30 pour justement revendiquer et dire que on a encore beaucoup de travail à faire, mais qu'on le fait ensemble.
C'est ça, on célèbre tous ensemble. C'est très important.
Oui. Ouais. Oui, oui.
Absolument. Ben, je pense que votre message a été, enfin, est de plus en plus entendu de toute façon, et je pense que les gens, ça devient un événement festif pour tout le monde, et ce n'est pas simplement des gens qui regardent d'autres On est plus là, effectivement. Mais alors, effectivement, ce défilé à ne pas manquer ce dimanche. Et puis, toutes ces autres activités, ces spectacles, que ce soit, quel que soit le lieu, esplanade, évidemment, du Parc olympique. Il y a des activités au Club Soda également. Alors, vraiment, on va voir sur le site et puis tout est là.
Oui, exactement. Donc, venez nous voir. On est élargi cette année, mais on est toujours dans le village. On est toujours au centre-ville et on a vraiment de tout pour tout le monde.
C'est ça. Ben, enfin, c'est de toute façon, c'est un des... dans Fierté Montréal, c'est de plus en plus couru de toute façon. Ça fait partie de ces événements à travers le monde bien, bien connus. Alors, je pense que c'est ça. On accueille de plus en plus de monde aussi. Alors, il fallait quand même avoir un peu plus de terrain pour en profiter. Alors, merci bien d'être venu nous en parler. Je vous souhaite, évidemment, Sandy Duperval, une bonne semaine.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
On a toujours un bon prétexte pour tomber nos foot of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Quand t'es pas là je fais n'importe quoi. Je prends les kilos des tequila. Je chante les chansons d'Oum Kalsoum. Je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir t'as besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Failli tomber par terre en entrant dans le dressing room. Quand toi et moi on faisait boum boum boum. Dans des ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On envoie balader les grooms. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Soit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, il y a le temps de faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Mais c'est comme ça qu'on fait l'amour, quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On ne voit pas besoin d'un zoom, quand toi et moi on fait boum boum boum. C'est mais comme ça c'est pas. Ça fait toujours deux. De plus de ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Asloum. Toi plus moi ça fait boum boum boum. Pas la peine d'aller cavaler. Y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Toulouse. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. C'est mais comme ça c'est pas.
Chanson écrite pour et pendant les manifestations pour le mariage pour tous en France. Et oui, vous aurez reconnu sans doute Mika et Boum Boum Boum. Mika qui nous visitait au printemps et qui sera en tournée du côté de l'Italie en septembre et en octobre. Bon, alors voilà, on va parler avec Véronica Brendel-Mouton qui, en fait, travaille pour Architecture 2022, Montréal en transformation. Bonjour!
Bonjour, merci de l'invitation.
Ben, ça me fait plaisir parce qu'en fait, ça va être fort intéressant. On va faire une belle visite, effectivement, de Montréal. Véronica, vous avez tout un parcours en histoire. Vous avez travaillé à bien des endroits et, notamment l'écomusée du Fiermonde. Mais enfin, il y en a tellement. Vous êtes quand même diplômée aussi en histoire de l'UQAM. Vous avez été aussi, vous avez eu bien des... vous vous êtes démarqué, en tout cas, ce que je voulais dire, dans vos études, vous vous êtes démarqué aussi. Alors, cela dit, vous travaillez, en fait, un peu au sein de Héritage Montréal.
Oui. C'est sûr qu'au cœur de mes recherches en histoire, de mon intérêt général, il y avait toujours la place de l'histoire de Montréal, de l'étude urbaine. Puis j'ai d'ailleurs été guide bénévole pour Héritage Montréal pour les architectures il y a quelques années. Donc, c'est un format des circuits que je connais bien. Mais en effet, là, Héritage Montréal. Puis cette année, ben, je suis là aussi pour vous présenter notre thématique 2022 pour ce qui est des visites dans la métropole.
Exactement. Donc, Héritage Montréal, hein, promoteur un peu de l'ADN de la métropole depuis plus de 40 ans. Alors, on sait que vous avez quand même une grande mission, protéger, promouvoir le patrimoine architectural, historique, naturel et culturel de la grande région métropolitaine. Enfin, vous avez fort à faire et vous y arrivez comme vous pouvez parce que parfois, c'est très difficile, évidemment, de travailler avec le politique d'un côté, avec, bien sûr, tout le milieu des affaires aussi. Ça devient assez complexe. Mais bon, parlez-moi un petit peu de cette mission d'Héritage Montréal.
Oui, bien plus largement, c'est sûr, vous avez dit, on a des mandats assez vastes, mais à travers un réseau de partenaires, là, on est une OBNL, un organisme privé à but non lucratif, et on agit justement en tout ce qui est domaine d'éducation, de sensibilisation, et on a en effet un volet des politiques. Puis les architectures, comme ça s'inscrit vraiment, en fait, depuis 1988, on donne ces visites-là guidées des circuits pédestres, et puis ça fait vraiment là, œuvre d'action de sensibilisation, de découverte pour les Montréalais, par des Montréalais, nos guides bénévoles qui sont fidèles au poste depuis toutes ces années, mais aussi, je dirais, aux gens là, plus largement de la grande région métropolitaine. Et puis, à chaque année, on a des thématiques qui couvrent des secteurs différents, des quartiers différents. Et cette année, la thématique, ben, c'est Montréal en transformation, comme vous l'avez dit. Donc, on invite les gens à explorer les transformations passées, récentes de la métropole et ça nous permet vraiment de rencontrer finalement de différentes étapes évolutives dans le développement urbain de Montréal et aussi parler des enjeux actuels.
Parce que ça bouge, hein, ça évolue constamment. Donc, vos visites étaient différentes. Évidemment, si on regarde il y a 10 ans, il y a 15 ans, bon, c'était différent. Mais là, effectivement, les quartiers changent, les quartiers évoluent. Alors, on pense au quartier latin notamment.
Oui, le circuit du quartier latin, c'est notre premier circuit. Ça débute cette fin de semaine. D'ailleurs, il reste quelques places au mois d'octobre en français et encore des places dans les plages horaires en anglais parce qu'on donne nos visites bilingues. Mm-hmm. Et donc, le quartier latin, cette année particulièrement, avec la fin de... les vastes chantiers comme le CHUM, le Square Vigée qui arrivent à une certaine maturité, on peut prendre conscience là, des transformations, mais aussi de voir comment l'ancien secteur bourgeois du 19e siècle s'est transformé avec les années et aujourd'hui quand même là, depuis les années 70 avec l'arrivée de l'UQAM et d'autres institutions comme la Grande Bibliothèque, aussi le centre d'archives en face du Carré Vigée, on voit que ce milieu institutionnel-là et résidentiel est toujours animé avec des nouveaux projets, comme je disais, comme le CHUM ou le Square Vigée qui est restauré finalement.
Et puis là, un peu plus à l'est, là, évidemment, il y a tout le secteur de l'ancienne tour de Radio-Canada aussi qui va se développer, enfin. La Plaza Saint-Hubert aussi qui s'est refait une beauté.
Oui, on a pu constater ça dans les deux dernières années. En effet, c'est une artère de quartier avant tout qui s'est développée là, au milieu du 20e siècle vraiment de façon magistrale avec une offre commerciale de restauration assez emblématique de Montréal, comme Saint-Hubert Barbecue. Mais aujourd'hui, c'est ça, avec l'arrivée de la nouvelle marquise, mais aussi des travaux d'infrastructures urbaines autour là, de l'artère, ça nous permet de la revisiter.
Mm-hmm. Et évidemment...
Puis, on a également...
Oui, continuez.
Oui, allez-y.
Non, c'est ça. Est-ce que vous alliez continuer sur la Plaza Saint-Hubert?
Ben, j'allais vous dire que vous parliez de Radio-Canada, mais on offre aussi un circuit Ville-Marie, donc on va un petit peu plus à l'est du secteur. C'est un circuit qu'on a développé également et qui met en valeur, en fait, un pan de ce quartier-là qui a connu des transformations, mais dont il y a encore des vestiges, mais des témoins de l'ère industrielle du 19e siècle. Encore l'usine McDonald's Tabaco, mais aussi des édifices comme la Grover, qui est un édifice sur Parthenay, là, qui date de 1923, entre autres, et qui était une compagnie de textile à la base, mais dans les années 1990. Donc, 70 ans plus tard, on a transformé sa vocation pour en faire, là, au début des années 2000, par exemple, une tentative de coop. Mais par la suite, ça, c'est des éléments qu'on parle dans les visites, les mobilisations citoyennes, mais aussi le fait que la ville, par exemple, pour la Grover, qui est un de nos arrêts du quartier Sainte-Marie, a changé carrément le zonage du secteur là, pour assurer la pérennité d'une vocation artistique, culturelle. Et donc, aujourd'hui, dans cet édifice-là, qui a encore toutes ses allures d'édifice industriel ou manufacturier, on trouve des ateliers d'artistes, des PME, des bureaux. Et ça a quand même vraiment permis de donner une vocation culturelle à ce secteur-là. Donc, c'est un exemple plus précis d'un type de circuit d'arrêt qu'on retrouve
évidemment.
Dans
Sainte-Marie. On peut pas tous les détailler, malheureusement, mais il y a le quartier évidemment, il y a le centre-ville de Montréal, là aussi, beaucoup de transformations. Le Myland également. Alors ça, vraiment... Là, on parle des infrastructures ferroviaires qui ont été au cœur du développement de nombreux quartiers, en tout cas. Et puis, on parle aussi, le quartier Sainte-Marie, vous venez d'en parler. Verdun aussi, quartier fort intéressant. Donc, plein de choses à découvrir. Alors, vraiment, en plus de votre mission initiale, là, donc faire connaître le patrimoine et défendre sa protection, ben, vous avez ces visites fort intéressantes. Et vous avez aussi, on peut aller sur le site d'Héritage Montréal, on peut trouver des choses très intéressantes au niveau virtuel aussi. Il y a des choses intéressantes à voir.
Oui, on a du contenu sur notre site. On a le blog, par exemple, des ressources plus pédagogiques. Là, c'est le temps des vacances d'été, mais tout de même, on a du contenu éducatif. Et puis, parlant du site, justement, j'encourage les gens intéressés à aller sur notre site, consulter le calendrier des différentes visites là, qu'on donne du 6 août au 2 octobre, les samedis et les dimanches. Il faut quand même faire vite parce qu'il y a quelques circuits qui sont très populaires, mais il y a possibilité là, d'aller repérer selon notre horaire et les disponibilités. Il y a tous les tarifs en ligne, donc il y a la possibilité au héritagemontréal.org de consulter là, autant pour les architectures que pour voir une vue d'ensemble de nos différents projets et contenus.
Véronica Brendel-Mouton, merci bien d'être venue nous parler d'architecture 2022, Montréal en transformation. Au revoir, bonne journée à vous.
Merci à vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Eh bien, bon mardi à vous tous. Encore une fois, je m'appelle Chantal Lavoie. Deuxième demi-heure de l'émission. En ce mardi 2 août, le mois d'août qui, selon un article de la presse d'aujourd'hui, devrait être plus chaud que la normale au Québec. En tout cas, pour les autres régions du Canada, ben, on verra. Mais enfin, pour le mois d'août, ça devrait être plus chaud au Québec. Et le mois de juillet, dis-je bien, qui a été simplement un peu plus chaud ou un peu plus près des normales. Ici au Québec, mais on sait que le mois de juin avait été plus frais ici, mais au Nunavik, ça avait été vraiment plus chaud. Ah, voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'on poursuit notre deuxième demi-heure et puis on a de beaux sujets devant nous. Alors, restez là.
Awake the stars, 'cause they're all around you.
Voilà musique qui faisait partie de la bande originale du film d'animation La Légende des Gardiens, le royaume de Gahul. Cette histoire de jeune chouette menant une mission punitive contre de redoutables congénères guerriers, dont son frère. Enfin, film d'animation sorti en 2010, reconnu quand même pour ses images d'une qualité exceptionnelle. Nous écoutions All City, et c'est ça, c'est un groupe américain originaire du Minnesota qui a à son actif quelques musiques pour des films d'animation, justement, comme les Schtroumpfs 2. Voilà. Et bien, notre prochain sujet est en lien avec les chouettes, les hiboux et autres oiseaux de proie. J'accueille Vanessa Beauregard, biologiste et responsable de l'éducation à l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Bonjour.
Bonjour.
Et oui, on parle de chouettes à voir. Ça, c'est situé, en fait, en Montérégie, près de Saint-Hyacinthe, hein, à Saint-Jude, je pense.
Oui, exactement. Puis Chouette à voir est sous la tutelle là, de l'UCROP, donc l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. C'est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux oiseaux de proie à travers la province.
C'est ça. Et puis c'est vraiment un endroit où les oiseaux de proie sauvages sont admis pour justement, en fait, ben, souvent vous les soignez et puis après ça, vous allez les remettre en liberté.
Oui, exactement. Donc, on remplit deux mandats, en fait, avec notre organisme. La réhabilitation, comme vous le dites, donc on accueille les oiseaux de proie blessés, malades, et on va faire en sorte qu'on leur offre des soins. Puis ensuite, ils vont retourner en nature. Puis on a une partie aussi d'éducation. Donc, plusieurs oiseaux de proie qu'on reçoit sont entrés en collision avec des voitures, avec des fenêtres de maison. Souvent, il y a des causes humaines. Donc, on fait aussi là, de la sensibilisation. Et à Chouette à voir, c'est un peu notre partie refuge et fin de réhabilitation aussi. Là, donc, les gens peuvent venir témoigner finalement du travail là, qu'on fait auprès de ces oiseaux-là.
C'est ça. Parce que, bon, il y a ces oiseaux que vous allez justement soigner, des oiseaux qui ont été blessés et tout ça, et que vous allez remettre en liberté. D'ailleurs, on peut assister à cette remise en liberté par moment, hein, c'est ça?
Oui, puis c'est une belle surprise lorsque ça arrive. En fait, lorsque l'équipe vétérinaire vient faire un petit tour, parfois, ben on est bien content. Il y a des oiseaux qui sont prêts à être mis en liberté. Puis à ce moment-là, ça se fait là, directement sur place, devant le public.
Ah.
On a vraiment les oiseaux, justement, qui retournent en nature, là, qui sont sauvages. Puis on a aussi des oiseaux de proie. On a une partie refuge, c'est-à-dire que des oiseaux qui ne peuvent pas retourner en nature à cause de... important. Donc, ces oiseaux sont gardés en volière sous nos bons soins, puis on peut venir les observer de près.
Eh oui, puis là, vous en avez quand même pas mal et vous les nommez aussi, vous leur donnez des noms. Alors,
Ben oui,
il y a
pour
plein
oui,
de.
les oiseaux, surtout qu'on s'occupe effectivement, là, donc nos oiseaux ambassadeurs qu'on appelle, ceux-là, on les manipule dans le sens où on va les entraîner, puis on va faire aussi des présentations, des démonstrations de proies en vol. Donc effectivement, pour les différencier, on va les nommer, mais eux, en tant que tels, ils reconnaissent pas leur nom, malheureusement.
Non, c'est ça. Et puis effectivement, le visiteur peut aussi en prendre, ben, évidemment, pas les toucher comme tels, pas les flatter, on s'entend, mais peuvent finalement les avoir sur leurs bras aussi le temps de, enfin, pendant quelques minutes.
Oui, exact. Donc, on offre cette expérience-là toute spéciale pour nos visiteurs. En fait, lorsque nos visiteurs viennent à Choitavoir, donc l'entrée, le prix d'entrée, tout ce qu'ils achètent en boutique et la photo souvenir aussi avec un oiseau au poing, ben, les sous contribuent finalement aux soins des oiseaux de proie. Et on leur offre en échange cette belle expérience-là pour les remercier. Donc, les gens ont des petites consignes spéciales, un gant de sécurité, puis ils peuvent prendre eux-mêmes là un oiseau de proie au poing pour une photo souvenir.
C'est ça, on peut se faire photographier avec Randy et Virgile, les grands ducs d'Amérique.
Oui,
Et
c'est ça,
aussi,
oui.
c'est
Notre
ça.
grand-duc est bien, bien populaire auprès de nos visiteurs.
Ou encore Thor, le petit duc maculé. Enfin, c'est très drôle. Puis il y a
Oui.
l'aigle royal aussi, hein, n'est-ce pas? En fait, ça me fait toujours penser, vous savez, la vidéo là, qui a circulé beaucoup là, avec un aigle royal comme ça qui prenait son envol là, du haut d'une falaise, là, puis avec des gens autour. Là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, ça a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux à un moment donné. Enfin, mais chose certaine. Alors, puis bon, là, ce qui est intéressant de dire, bon, il y a cette belle visite qu'on peut faire, mais j'attire l'attention aussi sur le fait que vous avez toute une programmation. Enfin, vous avez plein de choses au niveau virtuel aussi.
Virtuel, oui, ben en fait, c'est sûr qu'avec la pandémie, on a tous dû s'adapter. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on offrait des conférences aussi, on se déplaçait dans les écoles aussi pour faire de la sensibilisation avec nos oiseaux ambassadeurs. Et puis là, ben, on a offert finalement un plus large spectre en offrant aussi des animations en ligne, des animations virtuelles aussi. Et sur notre page Facebook, de temps en temps, ben, on fait une remise en liberté virtuelle
Ouais.
lorsque notre site est fermé. Parce que pour l'instant, on est ouvert en été seulement.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a toute une programmation autre, comme par exemple ce que je vois là, le 12 août, soirée des Perséides. Alors, on peut aussi en même temps aller sur votre site, chouette à voir, observer les étoiles filantes. Alors, il y a une programmation pour l'Halloween également.
Oui, effectivement, on a des activités spéciales comme ça qu'on organise pendant l'année, vous avez bien raison. Donc, notre prochain événement, c'est la soirée Perséide, où on vient observer les étoiles. Donc, à Saint-Jude, on est loin de la pollution lumineuse, donc on a un superbe ciel étoilé. On accueille les visiteurs avec nos chouettes et nos hiboux, bien sûr, nos poids nocturnes pour la soirée. Puis, sinon, on va avoir aussi, là, depuis une année, on fait une édition spéciale d'une journée artiste. Donc, on invite des artistes qui peignent ou qui dessinent des oiseaux de proie dans la thématique là, pour faire connaître des artistes de la région. Et finalement, comme vous dites, l'Halloween aussi, là, c'est une belle fin de semaine organisée, tout en déguisement et tout en décoration, donc spécialement pour célébrer l'Halloween.
Effectivement, avec les enfants et tout, distribution de bonbons et tout. Alors, évidemment, c'est un beau projet, ça. On peut déjà mettre ça à l'horaire pour l'Halloween. Chose certaine, alors, on a parlé effectivement de ces animations au niveau virtuel, mais bon, d'ailleurs, pour les écoles, ben évidemment, s'il y a des enseignantes, des enseignants qui nous entendent, eh ben on peut aussi, il y a la location de trousses pédagogiques, alors on peut déjà y penser pour l'automne qui vient.
Oui, effectivement. Donc, c'est en fait vraiment du matériel éducatif. Il y a plusieurs activités en lien avec les oiseaux de proie et puis aussi qui sont qui vont avec les compétences du ministère de l'Éducation. Donc, on perd rien. Il y a des choses sur les mathématiques et les hiboux, là, c'est tout ensemble, en tout cas. Donc, l'équipe a travaillé fort là-dessus.
Oui.
La géométrie avec les hiboux, là, c'est plus intéressant des fois.
Non, je comprends
Donc,
très bien.
on peut louer la trousse, puis on peut même par la suite là, compléter la trousse en faisant venir un animateur avec des oiseaux en classe pour avoir de vrais oiseaux de proie là, devant les élèves et parler un peu plus de ces beaux oiseaux mystérieux.
Bon, ben c'est ça. Puis vous avez de très, très beaux sentiers aussi sur le site.
Oui, effectivement, à ma part de sentiers pédestres, là, on a des beaux sentiers aménagés. On est vraiment en milieu naturel. Donc, on a même des oiseaux de proie sauvages, parfois, qui sont sur le site et toutes sortes d'autres oiseaux aussi. On a une très, très belle biodiversité à visiter.
Oui, c'est ça. Malheureusement, bien évidemment, votre bâtiment, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est un petit peu déconseillé là, pour les gens qui ont des déambulateurs, chaises roulantes, là, pour le bâtiment comme tel, c'est moins évident. Puis les chiens aussi, on peut le comprendre avec les oiseaux, les chiens ne sont pas permis aussi dans le complexe.
C'est ça. Ben, en fait, dans le complexe de l'habitation, c'est ça, c'est des oiseaux de proie sauvages qui vont retourner ensuite en nature. Ils ne voient pas les chiens, mais ils entendent le bruit. Donc, même si le chien est bien calme, là, les oiseaux de proie aiment un peu moins ça. Par contre, les sentiers, eux, sont accessibles pour les chiens sans problème.
Ouais.
Et puis, oui, pour tout le monde. Et donc, on a un projet aussi d'ouvrir un centre à l'année et on va être beaucoup plus accessible aussi là pour les personnes à mobilité réduite, aussi pour tous nos visiteurs. Et parce que ça se trouve en pleine nature, donc on a des sentiers là qu'il faut avoir un tout-terrain, disons.
C'est ça, exactement. Donc, pour aller voir des faucons pèlerins, des crisserelles d'Amérique, le Grand-Duc d'Amérique, Petite Buse et Buse à queue rousse, en fait, vous avez oui. L'Arfan des neiges aussi. Enfin, il y a plein d'oiseaux, de proies qui sont à observer chez vous. Alors, on va quand même, on va sur le site pour voir exactement où c'est situé, mais c'est à Saint-Jude, en Montérégie, tout près de Saint-Hyacinthe. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Et c'est vraiment sous la responsabilité de l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Chouette à voir, un lieu vraiment à visiter cet été.
Oui, et puis comme le nom le dit, ben passez nous voir, puis vous allez voir, c'est vraiment, vraiment chouette à voir.
Très intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Bien, merci à vous. Bon été.
Bon été à vous.
Your little brother never tells you, but he loves you so. You said your mother only smiled on her TV show. You're only happy when your sorry head is filled with dope. I hope you make it to the day you're 28 years old. You're dripping like a saturated sunrise. You're spilling like an overflowing sink. At every edge, but you're a masterpiece. And now you're tearing through the pages and the ink. Everything is blue. His pills, his hands, his jeans. And now I'm covered in the colors, blew apart at the seams. And it's blue. And it's blue. A masterpiece, and now you're tearing through the pages and
You were red, and you liked me because I was blue. But you touched me, suddenly I was a lilac sky. And you decided purple just wasn't for you.
Everything is blue, his pills, his dance, his jeans. And now I'm covered in the colors, pull apart at the seams, and it's blue.
Voilà, dans la foulée de La Fierté et Montréal, nous écoutions la chanteuse Alcee, qui est ouvertement bisexuelle. Cette auteure, compositrice, interprète, poète, créatrice de maquillage et actrice américaine, née le 29 septembre 1994. Elle interprétait la chanson Colors. Eh bien oui, juste un petit... ça, c'est mon lien avec mon prochain invité. Ma prochaine invitée, en fait, mon lien avec le bleu, l'Expédition bleue, qui est une expédition de recherche inclusive à la voile au cœur du Golfe Saint-Laurent. Nous allons en parler avec Anne-Marie Asselin, conservationniste pour l'Expédition bleue. Bonjour!
Bonjour, ça va bien?
Ben ça va très bien. Écoutez, je prends juste un petit moment pour vous dire, juste parce que, bon, on parlait avec tout à l'heure Vanessa Beauregard, biologiste responsable de l'éducation à l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Et puis, j'avais oublié de parler avec elle, de ce qu'on fait quand on trouve un oiseau de proie blessé. Et puis, je voulais juste dire aux auditeurs que les oiseaux de proie sont à déclaration obligatoire aux agents de protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Alors, voilà, c'est important de le souligner. Bon, alors nous entrons dans une autre dimension, c'est-à-dire que nous allons parler plutôt de cette expédition bleue. Vous vous intéressez, Anne-Marie Asselin, particulièrement à la conservation des espaces naturels, mais vous avez vraiment un parcours aussi très atypique. Enfin, vous avez voyagé beaucoup à travers le monde, des expéditions de plongée. Enfin, bref, vous avez vraiment votre entreprise aussi, qui est l'Organisation bleue.
Exactement, qui est un organisme à but non lucratif qui existe au Québec depuis 2018. Donc, je suis très fière là, d'avoir mis ce projet entrepreneurial, ma foi, nouveau genre, là, à terme. Et puis là, ben, on a le vent dans les voiles, littéralement.
Oui, c'est ça. Donc, beaucoup de travail. Ça veut dire que vous avez travaillé très fort. Et puis, parlez-nous comme tel de cette mission d'Organisation bleue depuis 2018 déjà.
Oui, exactement. Donc, la mission principale est ancrée dans la conservation là, du milieu naturel, de la biodiversité et de tout l'environnement qui nous entoure. On a fondé initialement le projet de l'Organisation bleue on a fait un cours, on est deux cofondateurs, moi et Jean-Sébastien Letourneau, qui lui est plutôt issu du milieu de la post-production en audiovisuel, en télévision et cinéma, et moi plutôt du milieu de la science, en biologie marine, écologie également. Puis j'ai aussi fait des hautes études auprès de la politique internationale dans la gestion de ce patrimoine naturel-là, notamment. Donc, le projet est né avec une étude de cas finalement qui mettait en lumière que les jeunes et les 18-35 ans, là, donc vraiment de 12 à 35 ans, public cible, étaient moins desservis au niveau des réseaux sociaux, mais aussi en termes de communication 2.0 à travers les réseaux sociaux, mm-hmm. des moyens numériques aussi, et toutes sortes de contenus le plus adaptés finalement à cette clientèle-là. On avait aussi un grand besoin de communiquer de façon plus positive l'environnement pour essayer de laisser les gens avec un sentiment autre que de l'éco-anxiété face à la crise climatique.
Ouais, c'est ça.
Donc, pour toutes ces raisons, est née l'Organisation bleue. Puis, à ce jour, on mène des projets assez funky, je dirais.
Oui, alors vraiment, donc, repenser cette sensibilisation environnementale et aussi... le public auquel on veut s'adresser. Il y a tout un travail en amont, Madame Madame Asselin, je m'excuse là. Alors voilà. Et puis c'est ça, il y a tout un travail en amont à faire. On dit que 80% de la pollution dans les océans provient des fleuves et des rivières à l'intérieur des continents. Et le nord du Canada est un des territoires aussi, ça on le sait, qui se réchauffe le plus rapidement au monde. Alors il y a quand même beaucoup à faire, hein?
Beaucoup à faire, beaucoup à témoigner, exactement, ce qui est la prémisse principale, je dirais, de l'expédition bleue. Je reviens un peu là, sur l'expédition, justement, et la vocation de l'organisme, mais on a un maillage qui est très interdisciplinaire. Ce mot-là est très important puisque à travers tous nos projets, on est vraiment ancré à travers plusieurs secteurs, finalement, de l'industrie qui nichent entre la vulgarisation scientifique, la science, évidemment, mais aussi des outils culturels. Je pense à le cinéma, par exemple, la création de contenu, les outils numériques, tout ça. Et tout ça nous permet, finalement, ce maillage-là entre les disciplines pour mettre à profit, finalement, toutes ces expertises-là dans le cadre des messages qu'on veut passer. Puis les messages qu'on veut passer, ben, sont ancrés à travers les statistiques que vous venez de donner. Donc, vraiment une mission d'exploration de temps moderne, là, je pourrais dire, puisqu'on s'en va témoigner et documenter la pollution plastique autant dans le golfe, au cœur de la masse d'eau, que sur des littoraux qui sont moins habités. Là, je pense notamment à l'île d'Anticosti, par exemple. Mm-hmm. Mais on pense aussi au nord là, de la Basse-Côte-Nord, dans le coin de Tête-à-la-Baleine, par exemple, la baie des Ahors. On va même aller là, jusqu'à Terre-Neuve, dans le coin du parc national de Gros-Morbe, pour justement quantifier, documenter puis prendre le plus de données possibles sur la nature des déchets plastiques qu'on retrouve sur nos côtes et constater là, est-ce que le changement climatique est vraiment en train d'affecter le territoire autant intrinsèque dans la population que sur le littoral, là, finalement, ce qu'on pourrait voir et témoigner du plastique.
C'est ça. Parce que là, l'expédition va vraiment héberger, bon, vous allez être à peu près une bonne dizaine de personnes, à peu près. Et en fait, ce qui est particulier, bon, d'abord, vous mettez de l'avant le travail des femmes, hein, aussi. Ça, c'est important. Donc, ça fait partie aussi de la mission. Et puis, bon, pour ce projet-là, c'est donc cette expédition-là, ça va être des femmes qui vont être là.
Ça va être principalement des femmes, exactement. Puis c'est une grande fierté, en fait, puisque les causes, à un moment donné, se rassemblent et se bousculent. Et à travers la cause du changement climatique, il y a aussi toute la question de la représentativité dans le domaine des sciences. Et le projet était d'abord et avant tout de rassembler ces femmes et ces minorités dans un souci d'équité, d'inclusivité, pour élever ces voix-là dans le contexte de la crise climatique, des voix qui sont moins entendues et qui pourtant ont probablement un angle et une approche qui est bien différente de certaines autres catégories là, finalement démographiques qu'on peut rencontrer. Et puis tout ça était ancré évidemment dans une démarche que j'appelle écoféministe. Mais à force de démarcher et d'avoir un souci justement d'équité, d'inclusivité et de diversité, bien, on se rend compte que on veut pas non plus cloisonner l'écoféminisme à travers un voyage qui est uniquement féminin, mais plutôt un voyage qui est inclusif puis qui représente en fait ces voix-là qui sont pas mises de l'avant là, de façon publique.
Ah, ça, c'est intéressant. Vraiment, donc, c'est un aspect intéressant de cette expédition-là. Maintenant, bon, on a parlé effectivement de quantifier ces microplastiques. En fait, on parle pas juste de déchets plastiques, mais quand on parle de microplastiques, c'est particulier, là, quand même.
Oui, c'est tout à fait particulier et c'est un type de pollution là, qui est plus invisible à l'œil nu, donc qui rejoint moins la population globale. Mais tu sais, quand on pense à une petite bouteille de plastique, par exemple, cette bouteille-là peut prendre jusqu'à 450 ans avant de se dégrader de l'environnement. Cependant, quand on retrouve la bouteille de plastique qui a voyagé à travers les mers du monde, si on faisait son suivi là, vraiment du départ là, jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur l'eau, par exemple, jusqu'à ce qu'elle aboutisse dans un continent de plastique quelque part en Atlantique, quand on va retrouver la bouteille au bout de 50, 100, 200 ans, ça ne sera plus vraiment une forme de bouteille de plastique, mais plutôt une forme désagrégée de cette bouteille-là. Et la dégradation du plastique, finalement, se fait de façon insidieuse jusqu'à atteindre des formats très, très, très petits, là, qu'on appelle le microplastique.
C'est ça. Puis même à travers nos vêtements également, hein, parce que maintenant, nos vêtements, surtout les vêtements, on pense aux vêtements de sport, tu sais, ça contient du plastique, en effet.
Exactement. Fait qu'on pense à une bouteille, c'est un peu sa forme typique, c'est vraiment ce qu'on s'imagine du plastique sur les littoraux, mais en fait, le plastique, il est omniprésent dans notre quotidien, que ce soit dans le fil dentaire, les tubes de pâte à dents, les vêtements qu'on porte, les fibres aussi avec lesquelles on fabrique ces tissus-là, ces objets-là de notre quotidien. Et quand on fait un lavage, notamment, eh bien, évidemment que ces fibres-là se retrouvent dans les systèmes d'aqueduc et donc éventuellement dans le Saint-Laurent. Oui, il y a une pollution qui est vraiment omniprésente. Là, on parle d'environ 60% de la pollution dans les océans qui serait de nature microscopique. Là.
Eh bien, donc, c'est tout le temps qu'on a, évidemment. Donc, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne expédition.
Ben merci beaucoup.
Expédition Bleue, une initiative de l'Organisation Bleue. Alors, ça a été un plaisir. Et puis, chers auditeurs, je vous retrouve demain à la même heure, entre midi et 13h. Soyez là. Et voilà, c'est l'émission Aime l'été qui se poursuit. Dès demain. Au revoir.